Les cours du Collège de France, Pascal Sonnella, chaire Innovation Technologique, Liliane Bettencourt.
Merci beaucoup d'être présents si nombreux aujourd'hui. Deuxième cours de la chaire d'innovation Liliane Bettencourt de cette année, dédiée aux technologies quantiques émergentes. Cette semaine, nous allons discuter de comment décrire la lumière en mécanique quantique et comment encoder l'information sur la lumière. Alors, pour mémoire, la semaine dernière, nous avions introduit l'autre système modèle qui va nous servir pour toute la suite du cours, à savoir le spin 1,5, donc ce spin qui existe chez l'électron, par exemple, que nous avons utilisé pour décrire un système à deux niveaux, montrer comment on encode l'information, comment on représente l'information et comment on la manipule en appliquant un champ magnétique. Et j'avais bien expliqué à la fin du cours que ce système modèle nous permettra ensuite de décrire des systèmes physiques très variés, notamment des atomes, des états discrets dans un circuit supraconducteur, etc. Aujourd'hui, nous décrivons le deuxième système modèle qui nous intéresse. Alors, cette première catégorie, pardon, de qubits, de systèmes physiques, c'est ce qui nous permet de décrire le plus généralement possible ce qu'on appelle plutôt des qubits stationnaires, c'est-à-dire des systèmes qui ne bougent pas dans lesquels on va encoder l'information. Le deuxième modèle que nous allons aborder aujourd'hui, système modèle, c'est ce qui nous sert souvent à décrire les qubits volants. Et c'est ce qui va nous permettre de décrire notamment les états quantiques de la lumière, mais aussi d'autres types d'ondes, comme des ondes acoustiques, nous allons y revenir dans un instant. Et finalement, le système modèle sur lequel je vais m'appuyer, c'est l'oscillateur harmonique quantique, qui est quand même un système qu'on apprend assez tôt dans les cours de mécanique quantique. Bien sûr, dans un formalisme beaucoup plus avancé, qu'on appelle celui le formalisme de la seconde quantification, mais que je vais décrire de manière très simple, en faisant analogie à l'oscillateur harmonique quantique. Alors, les systèmes que l'on va pouvoir décrire avec le formalisme que j'introduis aujourd'hui, je l'ai déjà dit, c'est la lumière quantique. Nous allons voir qu'il y a plusieurs saveurs, je dirais, de lumière. C'est aussi ce qu'on appelle les phonons, les vibrations dans un solide. Dans un solide, vous avez des milliards de milliards d'atomes qui sont organisés selon un cristal, et ces atomes, bien sûr, n'ont pas des positions fixes, ils peuvent vibrer, et donc créer des ondes qui peuvent se propager dans ces solides. Mais ce système va aussi nous permettre de décrire d'autres systèmes physiques. Alors, les deux premières catégories, là, vous allez le voir, font partie des systèmes qu'on peut utiliser pour encoder l'information et la propager d'un point à l'autre. Les trois dernières lignes que je donne comme exemple ici, ce sont des systèmes physiques que nous allons pouvoir décrire avec ce formalisme et qui, sont importants pour les technologies quantiques. On va le voir dans les différents cours, notamment les modes de vibration, par exemple, d'un atome ou d'une molécule. Donc, la semaine dernière, on a eu un séminaire de Jean-François Roch sur les centres NV dans le diamant, l'interaction entre les vibrations d'une liaison moléculaire au sein du centre NV a un rôle très important sur les propriétés d'émission de lumière de ce centre NV. Je le mentionnerai au cours numéro 4. Nous avons également des systèmes physiques qui se décrivent comme des résonateurs mécaniques que l'on va pouvoir explorer à la limite quantique. Et puis nous le verrons, pour réaliser des systèmes de calcul quantique à base d'ions, par exemple, on va aussi utiliser d'autres types de vibrations qui sont le mouvement en fait, des ions qui sont piégés et qui peuvent avoir un mouvement que l'on contrôle de manière très précise. Alors de manière plus large, pour motiver un petit peu le propos d'aujourd'hui et pour vous montrer un petit peu le lien avec tous les cours que nous allons avoir ensuite, ces technologies quantiques qui exploitent notamment la lumière, mais pas que, mais par exemple la lumière, vont avoir par exemple un impact important dans tout ce qui est capteur. Donc j'ai pris ici deux exemples que j'aime beaucoup. La détection d'ondes gravitationnelles est réalisée à partir d'interféromètres optiques et on peut augmenter la sensibilité de cette détection en utilisant des états spéciaux de la lumière qu'on appelle des états comprimés. De même, on peut, en imagerie biologique, gagner beaucoup en résolution en utilisant de la lumière spéciale, des photons intriqués par exemple. Et ces deux aspects, je vais en parler un petit peu aujourd'hui, mais nous aurons des conférences plus détaillées d'experts lors du colloque le 16 avril dédié à la lumière quantique dans les technologies quantiques. La lumière quantique est bien sûr aussi un support pour traiter l'information de manière pure, c'est-à-dire pure au sens propre du terme, traitement quantique de l'information, et en particulier faire du calcul quantique. Je vous donne ici deux exemples que nous discuterons, alors plus ou moins détaillés l'un ou l'autre, vous verrez. Les ordinateurs quantiques où on encode la lumière sur des photons, comme nous le faisons dans la start-up que nous avons créée il y a 7 ans, qui s'appelle Candela, ou des ordinateurs quantiques qui encodent l'information dans les variables qui décrivent le champ électromagnétique. C'est ce qui est réalisé par exemple par une autre start-up qui est en Amérique du Nord, au Canada, qui s'appelle Xanadu. Nous reverrons tout ça, nous discuterons tout ça au cours numéro 5. La lumière est bien sûr au cœur, comme dans les communications classiques, hein, le laser est au cœur de toutes les communications classiques par fibre optique par exemple. Et bien dans le monde quantique, on imagine également que la lumière sera un support essentiel d'information. Nous avons vu la semaine dernière des exemples d'échanges de clés cryptographiques certifiées, sécurisées par les lois de la mécanique quantique. Eh bien, on peut aller beaucoup plus loin. C'est des exemples ici de réseaux quantiques qui vont venir intriquer différents systèmes de qubits stationnaires, donc des mémoires quantiques ici à gauche intriquées sur des dizaines de kilomètres, ou à droite, des mémoires quantiques à l'état solide, donc dans les matériaux à base de diamants, également intriqués sur des dizaines de kilomètres. Nous verrons ce type de réseaux quantiques, nous les aborderons au cours numéro 8. Alors là, j'étais centrée sur la lumière, et puis bien sûr, nous avons également les vibrations d'autres systèmes physiques. Donc je vous mets un exemple à gauche, étudié au laboratoire matériaux et phénomènes quantiques de Paris-Cité, Université Paris-Cité, où vous avez ici des petits objets qui vont pouvoir vibrer. Donc là, c'est l'objet, vous voyez, c'est un espèce de micro-champignon qui fait quelques micros de large et qui va pouvoir vibrer. Et ce type de résonateur, de système physique qui vibre, on peut les mettre dans des niveaux d'énergie très bas, à très faible nombre d'excitations, des systèmes à la limite quantique, et réaliser des capteurs mécaniques très sensibles en faisant ça. Nous verrons ça lors de la leçon numéro 7. Et lors de la dernière leçon, nous reparlerons un petit peu de ce couplage entre des vibrations mécaniques et des vibrations optiques médiées par des systèmes physiques qui permettent par exemple de transférer l'information d'un domaine de longueur d'onde comme les micro-ondes d'un côté qui se couple bien à des qubits de type supraconducteur vers le monde de la photonique optique qui elle se couple bien pour se propager sur des longues distances et donc on va pouvoir utiliser des systèmes optomécaniques pour faire cette transduction du micro-onde vers le photonique. Alors la structure de cours d'aujourd'hui, je vais commencer par rappeler très succinctement comment on décrit la lumière dans le formalisme quantique. Et ensuite, on aura deux grosses sections. Une qui a trait à ce que nous appelons les variables discrètes, qui est en fait la façon dont nous utilisons des photons, un photon, deux photons, etc., pour encoder l'information. Et puis la deuxième partie qui traite de ce que nous appelons les variables continues, qui va encoder l'information sur les champs électromagnétiques décrits de point de vue quantique. Et dans cette deuxième partie ici, nous allons voir comment on mesure et on détecte des photons, comment on les caractérise. Et pour aller un petit peu plus loin que la semaine dernière, où nous nous étions arrêtés à 1 qubit, nous allons faire 2 qubits. Et pour décrire 2 qubits, je vais devoir introduire cette semaine le formalisme de la matrice densité. Donc ça fera une petite parenthèse qui nous servira dans toute la suite des cours. Alors revenons d'abord sur le système modèle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est l'oscillateur harmonique, qui est vraiment un système qu'on voit en début de mécanique quantique, qu'on va étudier ici comme un système modèle. Alors dans le monde classique, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est vraiment le système de cas d'école où je vais avoir un ressort accroché à une masse, un système de masse S. Mon ressort va avoir une constante de Rader K, et puis tout ça va être posé sur un sol sans frottement. Qu'est-ce qu'on a dans ce genre de système? Eh bien, on va avoir une force de rappel qui va s'opposer, attirer la masse vers le ressort, qui va s'opposer qui va être la force de rappel, qui va être égale du coup à la dérivée de la quantité de mouvement. Donc ça, c'est juste le principe fondamental de la dynamique. Et cette impulsion, justement, elle est simplement définie comme étant m dx sur dt égale p. Alors pourquoi je prends le temps de réécrire ces équations très simples? Eh bien parce qu'en fait ce système physique très simple, hein, donc une masse qui est rappelée par un ressort vers le mur, eh bien c'est décrit avec un système d'équations couplées qui fait qu'on appelle x et p des variables conjuguées. Elles sont en fait dérivées l'une de l'autre. Alors on sait très bien résoudre ça, hein. Je prends la dérivée seconde de x, ça me donne dp sur dt, et donc c'est égal à kx, donc en fait on trouve très facilement qu'on va avoir md de x sur dt2 égale moins kx, et donc je vais avoir x point point qui est égal à moins oméga de x, où j'ai fixé que oméga 2 c'est... Alors, pardon, j'ai tendance à mettre des petits K, alors je vais prendre plutôt un kappa. K sur M. Voilà, alors ça, c'est un système oscillant. Hein. On va trouver que X, ça va être X0 cos oméga T plus phi. Rien de spécial. La dernière chose que je vais faire, c'est de se rappeler que cette force de rappel ici, elle dérive d'un potentiel qui est simplement KX2 sur 2, et avec cette notation en oméga qui vaut M oméga 2 sur 2. Voilà, donc ça c'est la partie classique. Et donc quand on décrit un système équivalent en mécanique quantique, on va introduire par principe de correspondance l'hamiltonien H qui est P2 sur 2M plus 1/2 de M oméga 2X2 avec les relations de commutation que nous connaissons bien entre X et P. Alors ce système-là, on peut le résoudre très simplement en résolvant l'équation de Schrödinger, hein, en cherchant les états propres H psi égale psi. On peut simplement résoudre ce système et trouver que en fait on a des niveaux d'énergie qui sont quantifiés, qui sont très régulièrement espacés, d'énergie En qui est égal à H bar oméga N plus 1/2. Et puis alors ce qui est sympathique, c'est que cette équation n'est pas très compliquée à résoudre et on a une solution analytique qui est donnée par les mathématiciens qui nous dit que les solutions en fait sont des fonctions de Hermite. Donc c'est ces fonctions-là qui sont le produit d'une gaussienne avec un polynôme qu'on appelle les polynômes de Hermite qui sont définis comme ceci. Dans les deux cas les plus simples, donc vous voyez ici la figure des niveaux d'énergie et puis la forme des fonctions d'onde correspondantes. Pour l'état fondamental, on a que le polynôme de Hermite d'indice 0, c'est constant, donc en fait on a une gaussienne. Et pour le premier état excité, un quantum d'énergie supplémentaire, eh bien on va avoir en fait une gaussienne multipliée par un terme linéaire en x. Alors ce problème, on peut aussi le traiter de manière algébrique. Et on peut introduire ce qu'on appelle les opérateurs d'annihilation et de création, qui sont des combinaisons linéaires avec certains coefficients des opérateurs position et impulsion. On introduit ces opérateurs-là et on peut montrer, simplement en réintroduisant leur forme et en utilisant les relations de commutation entre X et P, on peut montrer que le commutateur de A et A croix est égal à 1. Et puis on peut aussi montrer que l'hamiltonien que j'ai écrit ici à gauche se réécrit de manière très simple sous la forme H bar oméga A croix A plus 1/2, que je réécris encore sous la forme H bar oméga N plus 1/2, où j'ai introduit un opérateur N qui est A croix A, et qu'on appelle l'opérateur nombre. Alors pourquoi on l'appelle l'opérateur nombre ? Eh bien parce que les états propres de N, alors vu que N et H sont proportionnels plus une constante, les états propres de N sont aussi les états propres de H. Et les états propres de N, en fait, eh bien, ils ont pour valeur propre des nombres entiers positifs, N, et correspondent au niveau d'énergie H bar oméga N plus 1/2. Alors comment on démontre ça ? C'est en fait pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en général, on va montrer que si j'ai psi qui est état propre de N, qui est égal à A croix A, eh bien alors j'ai que A croix psi, par exemple, est aussi état propre de N, ou vecteur nul. Et pour montrer ça, en fait, c'est pas très compliqué. On réapplique N qui vaut donc A croix A, ça c'est N, appliqué à mon état A plus psi. Ici, je vois apparaître un terme qui est en A croix, que je peux mettre sous la forme, donc A croix. Et puis ça, en fait, j'utilise le commutateur, ça me fait A croix A plus 1/2. J'espère que je ne fais pas d'erreur de notation, là. Et j'applique ça à psi. Et ça, c'est simplement N. Donc N appliqué à psi. Alors, si c'est un état propre, si psi est à propre de N, ça veut dire qu'on a M psi égale lambda psi. Pardon, je vais trop vite. N psi égale lambda psi. Et donc ça, en fait, ça me donne L lambda plus 1. Ça me donne lambda plus 1 A croix psi. Et donc je vois apparaître mon état ici et ici. Et donc j'ai bien que N A croix psi est vecteur propre de N pour la valeur propre ajoutée d'un cran. Alors, quand on fait les choses jusqu'au bout, on peut comme ça, en fait, trouver les états propres en faisant un raisonnement par l'absurde. Et on peut montrer qu'en fait, on a des relations comme ceci qui relient les états propres d'indice n à n-1 à n à n plus 1 par ces opérateurs annihilation et création. Ce qu'on voit ici, c'est que quand j'applique A à N, je descends d'un cran dans l'échelle des niveaux d'énergie, donc j'ai fait disparaître un quantum d'énergie dans mon oscillateur harmonique. Et symétriquement, ici, en appliquant A croix à N, je suis passé un cran au-dessus dans l'échelle des niveaux d'énergie, j'ai créé un quantum d'énergie. Voilà, alors, après avoir rappelé tout ça sur l'oscillateur harmonique quantique, de base, regardons le champ électromagnétique. Et ici, je n'écris pas les équations de Maxwell dans l'espace direct comme on les connaît en général. On a d'habitude div E, divergence de E égale 0, divergence de B égale 0, rotationnel de E égale moins dB sur dT, rotationnel de B égale 1 sur C2 dE sur dT. Je suis directement passé ici dans ce qu'on appelle l'espace réciproque, donc c'est-à-dire que j'ai fait une transformée de Fourier de l'espace réel pour exprimer mon champ dans l'espace des vecteurs d'onde K et du temps. Donc on fait ça, car ça a le bon goût de nous donner des équations extrêmement simples ici, où à la place d'avoir des divergences et des dépendances spatiales, etc., on a simplement des produits scalaires entre K et E, K et B, et des produits vectoriels. Et puis on va introduire le potentiel vecteur, A, qui définit le champ magnétique comme étant le rotationnel de A. Et on va se mettre dans ce qu'on appelle la jauge de Coulomb, c'est-à-dire qu'on va considérer que la composante parallèle au vecteur d'onde est nulle. Et dans cette jauge, on a que le champ électrique est simplement donné par la dérivée par rapport au temps du potentiel vecteur. Alors, quand on a fait ce passage en introduisant le potentiel vecteur et qu'on regarde ces deux équations ici, les deux dernières équations, eh bien, on trouve en fait qu'on a deux variables conjuguées dans notre système exactement comme ici, j'avais l'impulsion et la position qui étaient des variables conjuguées. On a que dA sur dt, c'est moins E. Et dE sur dt, c'est C2, K2, A perpendiculaire. Et donc, en faisant cette petite transformation-là, je vous montre tout de suite l'analogie qu'on a entre le champ électromagnétique et les équations qui sont au cœur de l'oscillateur harmonique quantique. Alors, ce qu'on va faire, comme juste avant, on avait, dans l'oscillateur harmonique quantique, j'avais introduit des combinaisons linéaires des deux variables conjuguées avec l'opérateur A et A croix. Eh bien, dans le monde classique, je peux aussi, par analogie, créer cette variable alpha comme combinaison linéaire de mes deux variables conjuguées A et E. Nous allons voir où ça nous amène. Et pour cela, on va maintenant regarder l'énergie du champ électromagnétique. L'énergie du champ électromagnétique définie à partir des champs dans l'espace réel, c'est l'intégrale sur tout l'espace du module au carré de E plus C2, le module carré de B, avec un coefficient devant. Alors maintenant, comme dans le domaine, dans l'espace réciproque, les choses sont très faciles à représenter, comment je vais faire le lien ? Eh bien, je vais maintenant refaire une transformée de Fourier inverse, donc je vais repasser de l'espace réciproque à l'espace réel. Mais pour faire cela, je vais prendre une précaution, je ne vais plus prendre une intégrale continue sur K, je vais discrétiser mes vecteurs d'onde, c'est-à-dire que je vais considérer que j'ai plus un volume infini dans lequel je décris mon champ électromagnétique, je vais prendre une boîte de grande dimension, L3, en volume, et je vais discrétiser, je vais créer des vecteurs d'onde discrets qui correspondent en fait aux conditions limites de ma boîte. Et donc, en faisant ça, au lieu d'avoir une intégrale continue pour mon champ, je vais avoir une somme discrète qui me donne mon champ électrique l'espace réel, qui est une somme du champ électrique dans l'espace réciproque. Et ensuite, eh bien simplement, on va pouvoir réécrire... Alors, la même équation, je ne l'ai pas indiquée, mais bien sûr, on a une équation équivalente pour le champ magnétique. Avec la relation B égale rotationnel de A dans l'espace réciproque, on a une relation simple entre B dans l'espace réciproque et A dans l'espace réciproque. Et finalement, on va avoir, ici, si je reviens sur l'intégrale ici de mon champ magnétique, je vais avoir de mes champs électriques et magnétiques au carré qui me donnent accès à l'énergie. Je vais finalement obtenir que l'énergie s'écrit comme une somme d'énergie de petits systèmes définis par chaque vecteur K auquel je donne un indice L et qui sont donc en fait donnés par ces coefficients dans l'espace réciproque, donc E carré plus oméga 2 A carré. Alors le oméga 2 A carré, ce n'est rien d'autre que C2 K2 B2, comme B égale... pardon, j'ai dit une bêtise là. En fait, c'est C2 B2, et donc C2 B2, ça fait C2 K2 A2. Voilà, et c'est pour ça qu'on obtient cela. Et là, vous voyez qu'on a vraiment l'analogie complète avec le système que j'ai décrit avant. On a une énergie d'un système physique qui est donnée par la somme des deux modulo carré de deux variables conjuguées, c'était x et p, et là c'est e et a. Et donc on va pouvoir, par analogie, définir un hamiltonien pour le champ électromagnétique qui va être la somme de tous ces petits hamiltoniens équivalents qui sont chacun, finalement, peuvent être décrits comme un oscillateur harmonique quantique. Simplement, les opérateurs A et A croix qui décrivaient tout à l'heure les opérateurs création et annihilation d'un oscillateur harmonique avec X et P, et bien cette fois, les A et les A croix correspondent à des combinaisons linéaires de mes deux nouvelles variables conjuguées qui sont le champ électrique et le potentiel vecteur A avec les coefficients qui vont bien. Et donc maintenant, nous avons en fait introduit un hamiltonien pour notre champ électromagnétique qui est simplement la somme sur L, alors je n'ai pas défini L, mais qui va être donc H bar oméga L, A croix L A, plus 1,5. Chaque terme est un oscillateur harmonique. Les relations de commutation que je vous ai présentées là, en fait, nous disent que c'est comme si ces oscillateurs harmoniques étaient complètement indépendants les uns des autres. Et finalement, ben, pour chaque sous-système, je sais que les états propres, ça va être des états propres avec un indice n, nl. Et finalement, eh bien, mon système total, je vais le décrire avec des états quantiques qui vont en fait être des combinaisons. Alors si j'avais juste un indice pour un seul L, les états de mon oscillateur harmonique, c'est des combinaisons linéaires de ces états propres qu'on a trouvés pour chaque oscillateur harmonique. Et maintenant, je vais sommer pour toutes les valeurs possibles de N. Mais évidemment, ça va être, je vais devoir, en fait, ça va être un produit tensoriel de tout ça. Alors, je ne vais pas le réécrire. Là, c'était pour vous donner une idée. Alors, on va le faire juste pour 1. Voilà. Ça, c'est pour chaque oscillateur harmonique. Et donc, j'ai écrit proprement ici. Une fois que je considère que j'ai N systèmes harmoniques qui sont la somme dans mon hamiltonien, eh bien, en fait, mes états quantiques vont être des produits tensoriels. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir sur chaque état ici, les N1, les NL, etc., vous disent j'ai N quantum d'énergie dans l'oscillation 1, N quantum d'énergie dans l'oscillation 2, etc., etc. Alors souvent, hein, dans la suite du cours, je vais me mettre dans le cas monomode, c'est-à-dire pour un seul L, ça sera quand même plus simple, mais on ne peut pas toujours le faire. Quand j'ai simplement une fréquence, une seule onde plane qui correspond à la fréquence CK, eh bien, je peux simplement écrire que, je reviens à l'équation que je vous ai donnée là, mon état va simplement s'écrire comme une combinaison linéaire avec des coefficients C, des états propres de l'oscillateur harmonique à N quantum d'énergie. Et pour terminer, on va pouvoir revenir dans la description du champ électromagnétique. À gauche, je vous donne les équations équivalentes dans le monde classique de ces champs électromagnétiques, dans le formalisme que je vous ai montré au début, dans l'espace, à partir de la définition dans l'espace réciproque, qui est maintenant en fait inclus dans les champs E et A sont inclus dans les modes A, alpha, L ici, et ça nous donne dans le monde quantique ces opérateurs champs qui sont des combinaisons linéaires, des A et des A croix, avec des coefficients différents, et le terme d'onde plane, si vous voulez, EIKR, qu'on connaît bien pour le champ électromagnétique. Voilà. Là, j'ai résumé, bien sûr, de manière très rapide, une idée du formalisme qu'on utilise pour décrire le champ électromagnétique. Et nous allons un petit peu l'utiliser avec des états très simples. Premier état, ça va être l'état à un photon. Qu'est-ce que c'est qu'un état à un photon? Eh bien, ça va être un état propre de l'opérateur N, qui a pour valeur propre 1. Et dans le cas monomode, ça va être simplement l'état quantique dans lequel j'ai un photon de fréquence oméga L définie, qui correspond le mode qui m'intéresse. Donc ça, c'est les états les plus simples qu'on peut imaginer et qu'on va étudier abondamment dans la suite du cours. Je dois introduire un autre état très simple, très important pour la suite, qui qui est ce qu'on appelle les états quasi classiques. Alors, ma petite animation est dans le désordre parce que je voulais vous montrer que c'est les états qui sont générés par des lasers, notamment. Donc, ces états quasi classiques, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des états cohérents, et c'est des états très particuliers qui nous intéressent beaucoup, en général, dans l'optique quantique, qui sont en fait simplement définis comme étant des états propres de l'opérateur A. Et donc, en fait, on peut montrer que c'est des états propres de l'opérateur A pour une valeur propre alpha, et ils s'écrivent ainsi. Alors, on peut très simplement montrer ça. Hein. Ces états propres-là, je vais me mettre ici, les états quasi-classiques ou cohérents, c'est les états propres de A, je vais y arriver, psi égale alpha psi. Et quand j'écris psi comme je le définis de manière générale sur un seul mode, hein, je fais comme si j'avais qu'une seule fréquence dans tout mon champ électromagnétique. Eh bien, en fait, j'applique A à psi. Qu'est-ce que ça me donne ? Ben, en fait, je passe de n à n-1. Donc, ça me fait son sur n supérieur à 1. CNL, racine de n, n-1. Je laisse tomber le L. Hein. Hop. Et ça, je dis que c'est alpha psi. Donc, c'est alpha somme sur n supérieur ou égal à 0, CNN. Et donc là, on voit tout de suite apparaître une relation de récurrence en réécrivant cette équation, cette somme-là en partant de 0. Et donc, je peux faire correspondre les termes à terme et je trouve directement que je vais avoir CN plus 1 qui est alpha sur racine de N plus 1, CN. Donc, j'ai une relation de récurrence entre les coefficients qui me permet de trouver très simplement la forme que je vous donne là qui font que les CN, en fait, c'est des alpha puissance N sur racine de factoriel N. Et le terme qui apparaît devant, c'est simplement le terme de normalisation qui fait que l'état est normalisé à 1 et qui est en exponentielle moins alpha carré sur 2. Alors cette source, elle est très importante, cet état quantique, il est très important pour plusieurs raisons, on en reparlera à la fin de la leçon. Mais d'abord, pour illustrer comment les photons, la distribution de photons est répartie dans l'émission d'un laser. Je vous ai dit, ces états-là décrivent très bien la lumière émise par un laser. Donc la lumière émise par un laser, c'est une lumière monochromatique, tous les photons ont la même longueur d'onde, émise dans la même direction, donc on est bien dans le cas monomode que j'ai décrit là. Mais par contre, si je regarde quelle est la probabilité dans l'état de mon laser, dans mon laser, dans la lumière, de mesurer n photons, eh bien ça va être exponentielle moins alpha carré, module de alpha carré sur factoriel n. Et donc je trace ici la probabilité de trouver n photons dans différents cas. En fait, on peut montrer que la valeur moyenne du nombre de photons dans l'état alpha, c'est le module de alpha carré. Et donc, pour un nombre moyen de photons dans mon état de 0,1, j'ai essentiellement ici du vide, un petit peu de probabilité de trouver un photon et une toute petite probabilité d'en trouver deux. Si je prends un nombre moyen de photons de 1, c'est-à-dire j'ai une impulsion où en moyenne j'ai un photon, eh bien quand je regarde le détail, j'ai en gros 36% du temps j'ai du vide, 36% du temps j'ai un photon. Et puis, près de 18% du temps, j'en ai deux, et puis j'ai quand même une probabilité non ridicule d'en avoir trois, etc. Donc vous voyez, quand vous prenez un laser, vous l'éteignez pour avoir en moyenne un photon, eh bien en fait, vous avez de temps en temps 0, 1, 2, 3, et même 4 photons. Donc ce n'est pas du tout l'état quantique qu'on a décrit avant, qui serait un état à un photon. Voilà. Alors, à partir de ces deux états-là, on va commencer à regarder un petit peu comment on les caractérise et comment on les décrit. Et donc, je vais d'abord commencer à regarder avec vous comment on montre qu'un état est une source de photons unique ou comment est-ce qu'on peut mesurer expérimentalement que ce serait plutôt un laser. Alors, oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Cette statistique du nombre de photons, qui est exponentielle moins alpha carré, module de alpha carré, puissance n sur factoriel n, c'est ce qu'on appelle la statistique de Poisson. C'est en fait qui correspond à l'émission de photons de manière complètement décorrélée les uns des autres d'un point de vue statistique. Alors comment est-ce qu'on va montrer qu'on a un état quantique qui contient un photon, ou plutôt un état quantique qui aurait la statistique de Poisson d'un laser? Alors je reviens sur cet état que j'ai introduit, je vous ai dit que c'est l'état le plus simple qu'on peut créer. J'écris un quantum d'énergie dans mon champ électromagnétique et j'appelle ça un photon. Sauf que je me suis mis dans le cas monomode, c'est-à-dire que je me suis mis à une seule fréquence. Donc dans l'espace des fréquences, c'est-à-dire que j'ai pris un Dirac, j'ai une fréquence. Et si je suis une transformée de Fourier, en fait, l'état que j'ai en train de décrire, dans le temps, il est constant. Donc j'ai un photon, un quantum d'énergie qui est infiniment réparti sur l'espace du temps, sur tout le temps. Donc ce n'est pas un système en fait réellement utilisable d'un point de vue des technologies quantiques qui nous intéressent dans cette chaire, et même il y a des discussions sur le fait qu'on pourrait appeler ce genre d'état-là un photon, parce qu'on ne peut pas définir la position, par exemple, d'un paquet d'ondes avec un photon qui serait en fait réparti sur un temps infini. Donc ce qu'on va faire en général, c'est que ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt d'écrire des états d'impulsion, une impulsion temporelle qui contient un photon. Et donc pour faire ça, comme je vais définir une forme impulsionnelle qui décrit un état à un photon, ça veut dire qu'en fait je vais devoir construire mon état à un photon sur plusieurs fréquences, par transformée de Fourier. Si j'ai une durée finie dans l'espace, dans le temps, ça veut dire que je vais avoir aussi un spectre, pas discret en fait, un spectre aussi continu en fréquence, que j'écris pour simplifier dans un cadre d'une somme discrète ici, mais qui dit que finalement mon état, ça va être une superposition d'états à un photon de fréquences différentes, dont la population totale en tout fait un état à un photon. Donc c'est vraiment ce genre d'état qu'on essaye de créer. Je fais remarquer en passant que cet état-là, en fait, c'est une superposition quantique de différents états à différentes fréquences. Alors, comment est-ce qu'on va détecter la lumière et comment on décrit la détection de lumière dans le monde quantique ? Alors, en général, sans expliquer vraiment les détails, ce qu'on va trouver dans la plupart des systèmes qui permettent de mesurer les photons, c'est qu'ils sont sensibles à l'intensité du champ électrique. On va essentiellement envoyer un laser sur un système qui va arracher un électron et cet électron va être converti en un courant, par exemple, dans une photodiode. Je t'expliquerai ça juste après. Donc, en fait, on va être sensible à l'intensité du champ électromagnétique. Mon champ électromagnétique, je le réécris avec les équations qu'on a juste introduites. On a une partie en A et une partie en A croix. Donc, en fait, on a une partie que je peux écrire avec... Je peux couper ce champ en deux parties, avec un signe plus et un signe moins, ici, qui sont, en fait, hermitiens l'un de l'autre, hein, puisqu'on a un moins dans l'exponentielle, ici, et un A croix là. Et donc, ce qu'on peut montrer, c'est que le signal d'un détecteur de lumière va être proportionnel, en fait, à l'intensité du champ. L'intensité du champ va être proportionnelle à l'énergie de ce champ, qui en fait est donné proportionnel au nombre de photons qu'on a dans le champ. Encore une fois, ici, je me suis mis dans un cas où j'ai une seule fréquence. Et donc finalement, l'intensité du champ, elle va être proportionnelle à la valeur moyenne de cet opérateur nombre que j'ai décrit, qui dit le nombre moyen de photons dans mon système, si je considère encore une fois une seule fréquence. Alors, je vais vous donner ici deux exemples de types de détecteurs qu'on utilise pour détecter des photons un par un. Parce que c'est ça qui m'intéresse ensuite. Ça va être, là, c'est la description de la détection en général, mais on va ensuite chercher des systèmes qui sont capables de détecter un photon à la fois. Et donc, on a un certain nombre de technologies, mais je dirais que les plus matures et les plus utilisées actuellement tombent dans deux catégories qu'on appelle les photodiodes à avalanche d'un côté, qui fonctionnent à température ambiante. Donc, je vais faire un petit dessin juste pour les gens qui connaissent un tout petit peu de physique du solide et de microélectronique. En fait, on va avoir des systèmes à base de diodes, dans lesquels on va, par exemple, avoir un espèce de puits quantique ici. Donc là, j'ai en fait une jonction PN. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la lumière va venir prendre un trou dans la bande de valence, l'emmener dans la bande de conduction. Cet électron, on va ici, on va se mettre dans... Alors là, mon dessin n'est pas assez incliné ici. On va se mettre dans une situation où on a un fort champ électrique ici qui draine les électrons en dehors de la jonction. Et en fait, cet électron va passer par effet tunnel ici et ensuite va en fait être évacué pour créer un courant. Alors, pour faire un détecteur de photons unique, en fait, un quantum d'énergie vous crée un électron, ça ne fait pas un signal extrêmement fort à mesurer. Et donc, on va se mettre dans un régime où on va avoir une tension qui va être très importante ici, de sorte que l'énergie de l'électron ici qui arrive est tellement importante que sur son chemin, il va en fait ioniser, il va créer d'autres électrons en cascade. Et on va avoir une avalanche de photons, pardon, d'électrons qui va être créée, qui fait qu'un photon va donner lieu à un courant mesurable. Donc ces systèmes-là ont le bon goût de fonctionner à température ambiante, ont comme efficacité maximale, j'ai pris un article très récent où l'état de l'art, je pense que c'est à peu près l'état de l'art qu'on a dans le système, il est autour de 80%, Quand vous envoyez un photon dessus, vous avez 8 chances sur 10 de le détecter, ce qui est beaucoup, mais un peu insuffisant, nous en parlerons petit à petit. C'est des systèmes qui sont très dépendants de la longueur d'onde, parce que en fait, les transitions que je viens de décrire vont dépendre du matériau semi-conducteur, de la structure de bande, etc. Et puis, c'est des systèmes où soit on a une résolution très rapide, on va avoir une réponse très rapide, soit avoir une grande efficacité, mais on va avoir du mal à avoir un système qui est à la fois très efficace et qui vous donne un signal de détection très court. Et la durée de réponse d'un détecteur est très importante. Imaginez que vous avez des photons très, très étroits dans le temps, vous avez envie de pouvoir mesurer leurs caractéristiques. La deuxième catégorie de détecteurs qui a émergé depuis une quinzaine d'années, qui est maintenant extrêmement mûre et commercialisée maintenant au niveau international et qui devient un peu le standard, malgré son fonctionnement à température cryogénique, c'est l'utilisation de fils supraconducteurs, de nanofils supraconducteurs. Donc en fait, on va partir ici sur des systèmes qui vont fonctionner à la température où le matériau est supraconducteur. On va faire un méandre ici de nanofils, donc un petit circuit. Et ce qui va se passer, c'est que quand la lumière va arriver sur ce système, un photon va arriver sur ce système, il va chauffer très peu, localement, le méandre et le faire passer dans la phase non supraconductrice. Et donc, en passant dans la phase non supraconductrice, d'un seul coup, là, vous avez une tension ou un contrôle électrique autour, eh bien, votre système va avoir une réponse électrique différente que vous allez être capable de mesurer du fait de l'impact d'un photon. Et puis ensuite, eh bien, il y a de la physique, il y a beaucoup de physique derrière toutes ces technologies qui s'est développée au fil des années. Bien sûr, la tâche chaude, le hotspot en anglais, va s'étendre, et puis il va falloir se dissiper. Donc, il va y avoir un certain temps pour le système pour revenir à sa température de base, qui le remet dans l'état supraconducteur. Donc ces technologies sont vraiment les plus matures qu'on ait actuellement. Je vous ai mis ici, c'est une espèce de figure en diamant qui montre les propriétés qui nous intéressent beaucoup. Donc l'efficacité de détection, vous voyez ici qu'on a des efficacités de détection à l'état de l'art de plus de 98%. C'est vraiment magnifique, hein. Vous êtes sûr quand vous envoyez un photon à 98% de le détecter. C'est absolument clé, nous le verrons dans les développements d'un certain nombre de technologies quantiques. On est capable de les faire fonctionner avec des résolutions temporelles, c'est-à-dire la capacité de mesurer des impulsions très courtes, de l'ordre de 4 picosecondes, 4×10-12 secondes. Et puis, on est capable aussi de mesurer un flux de photons très important, donc d'avoir un nombre de coups par seconde de l'ordre du gigahertz, qui est aussi très important. Et puis, une dernière métrique qui est importante, c'est le signal que vous avez, même quand vous n'illuminez pas votre détecteur, c'est ce qu'on appelle le coup noir. C'est pas français, ça. Bon. Le signal que vous avez dans le noir. Et ça, cette valeur-là est aussi très importante, notamment quand la semaine dernière, nous avons parlé de faire des distributions de clés cryptographiques. Vous ne voulez pas que votre détecteur commence à dire qu'il y a un signal quand il n'y a pas de photon qui arrive. C'est une des métriques très importantes, souvent pour les protocoles de sécurité de communication. Alors, à partir de ces technologies-là, comment, si je vous donne un état à un photon, va-t-on pouvoir montrer qu'on a effectivement un état à un photon ? Eh bien, le dispositif qui permet de faire ça est très simple. Vous envoyez vos impulsions lumineuses ici, sur une lame semi-transparente, et d'un point de vue classique, hein, ça veut simplement dire que le champ électromagnétique que vous envoyez sur cette lame semi va être séparé en deux chemins. Alors d'un point de vue quantique, c'est un petit peu plus subtil que ça. Vous avez un cube séparateur, vous envoyez votre état à un photon ici sur la voie A, vous n'avez rien sur la voie complémentaire ici, la voie B, et le cube séparateur va séparer en fait votre faisceau en deux chemins. Et donc en sortie, les chemins C et D, qu'est-ce qu'on va avoir ? Eh bien finalement, un photon qui arrive sur ce cube séparateur va donner en sortie un état qui va être 0 photon sur le chemin D, 1 photon sur le chemin C, plus 1 photon sur le chemin C, 0 photon sur le chemin D, sur racine de 2. Je montre cet état parce que c'est une superposition quantique de votre photon sur deux chemins. D'accord ? Mais qu'est-ce que me dit cette façon d'écrire mon état ? Eh bien, ça me dit que si je mets un détecteur ici, par exemple, et que je mesure donc un clic ici, ça veut dire qu'en fait, j'avais effectivement un photon là. Et donc, finalement, sur l'autre voie, j'ai forcément 0 photon. Et symétriquement, si j'ai un clic ici, ça veut dire que j'ai détecté mon photon. Alors, j'ai écrit deux fois la même chose ? Oui. D, C. Je détecte mon photon en D ici, et bien forcément de l'autre côté, je n'ai pas de photon. Et donc ça veut dire que j'ai jamais deux clics à la fois, des deux côtés. Donc c'est ça qu'on va utiliser pour vérifier qu'on a un état à un photon. Alors je vous fais une petite animation ici. Ça a la forme des sources de photons uniques que nous développons dans notre laboratoire, mais pour vous montrer que typiquement ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner de l'énergie à un système, il va nous le rendre sous forme de photons uniques, et comme on veut générer des impulsions qui contiennent un photon, on va faire ça avec un taux de répétition le plus élevé possible. D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse le plus pour pouvoir avoir beaucoup de photons et beaucoup de photons pour manipuler, encoder l'information. Que se passe-t-il quand j'envoie cette structure dans mon appareil de mesure? Eh bien, et je regarde en fait, donc j'ai les clics sur un détecteur et les deux, et je vais en fait regarder, compter les coïncidences, les doubles clics si vous voulez. Eh bien, ce qu'on va mesurer, c'est typiquement, ça c'est une courbe qu'on mesure tous les jours dans le laboratoire. Vous voyez ici, on trace les coïncidences en fonction du délai entre le clic de ce détecteur-là et le clic de ce détecteur-là. Alors, prenons le premier pic ici à gauche. Ça veut dire que j'ai eu un clic sur ce détecteur-là, puis un clic dans ce détecteur-là. Donc en fait, simplement, j'ai un photon dans une impulsion qui fait cliquer un détecteur et un photon dans l'impulsion suivante qui fait cliquer l'autre détecteur. Donc c'est normal que j'ai un signal ici qui correspond à la différence de temps entre mes deux impulsions lumineuses. Si maintenant je regarde deux impulsions lumineuses plus éloignées l'une de l'autre, deux fois plus éloignées l'une de l'autre, eh bien ça va être un photon dans cette impulsion-là et un photon dans cette impulsion-là qui va me donner ici ce pic qui est en fait deux fois éloigné, qui est deux fois éloigné, qui a un délai de temps qui est deux fois la période de mes impulsions. Et donc qu'est-ce qui montre ici que j'ai une source de photons unique? Eh bien c'est ce pic-là, l'absence en fait, ou la quasi-absence de ce pic-là. Ce pic-là, mesuré à délai nul, me dit que j'ai un clic dans ce détecteur-là et un clic dans ce détecteur-là venant de la même impulsion lumineuse. Alors ici, elle n'est pas parfaitement nulle, mais elle devrait l'être si c'était une parfaite source de photons uniques. Et donc, c'est l'absence de ce pic, ici, ou la quasi-absence, qui montre que je n'ai pas deux photons dans mon impulsion. Alors, je vais être plus précise juste après. Mais déjà, juste pour que vous ayez une idée mentale de à quoi ressemble une mesure d'une source de photons unique, c'est typiquement ce genre de courbe où on regarde en fait les doubles clics et on s'aperçoit que quand on regarde dans une seule impulsion, on n'a pas ou quasiment pas de double clic. Alors d'un point de vue mathématique, les mesures de corrélation que j'ai décrites là sont un peu plus compliquées à décrire que celles que j'ai écrites tout à l'heure simplement sur la mesure d'un seul détecteur. On va faire des mesures corrélées sur deux détecteurs, ça s'écrit de cette façon-là. Sans rentrer dans le détail parce que je vois que le temps passe, en fait, c'est simplement, je peux décrire cette intensité de corrélation avec une fonction très simple. Alors, vous voyez ici, j'ai pris simplement les valeurs moyennes du champ électromagnétique à deux instants, etc. Et ensuite, j'ai fait un ratio. Alors là, c'est exactement comme la semaine dernière quand on a fait la tomographie d'un qubit pour mesurer le vecteur de Bloch. Je vous ai expliqué qu'en fait, on devait normaliser parce qu'on ne connaît pas la réponse d'un détecteur. Là, c'est de la même façon. On va prendre des fonctions de corrélation normalisées et on peut montrer que la fonction de corrélation normalisée, elle est donnée par la somme pour n supérieur ou égal à 2, n plus n moins 1, p de n, sur la valeur moyenne ici du champ du nombre de photons au carré. Somme sur n, pn, c'est vraiment le nombre moyen de photons au carré. On va le regarder deux secondes plus précisément sur ces deux courbes expérimentales qui représente une des premières démonstrations au niveau international d'une source de photons unique rapportée en 2000, où ils ont fait la mesure sur un système dont on discutera dans deux semaines qui émet des photons un par un, et qui ont fait la comparaison avec ce qu'ils obtiendraient s'ils faisaient la mesure avec un laser. Alors juste, je vais continuer à remplir le tableau. Sur l'expérience de gauche, on a des états à un photon. Et donc j'ai des états qui ont un seul photon que je vais dessiner avec un petit rond ici. Et ce photon va arriver, va être détecté soit là, soit là. Et donc l'intensité que j'ai sur le pic à délai nul, c'est forcément proportionnel au fait que j'ai deux photons. Alors avec mes notations c'est P2, deux photons dans mon impulsion. C'est proportionnel à ça. Parce que en fait, tout ce qui contient seulement un photon ne donne pas de signal, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est deux photons, ou trois, ou quatre, etc. Les pics qui sont décalés à des temps différents de zéro, les autres pics, ils correspondent simplement à la détection d'un photon dans une impulsion et un photon dans une impulsion ultérieure. Et donc, en fait, eux, ils sont proportionnels à P1 au carré. Simplement, la probabilité d'avoir un photon suffit. Je fais l'hypothèse que le nombre moyen de photons dans mon système est très petit devant 1. Alors, en fait, quand on regarde en détail, ici, vous voyez mes pics, ils sont ordonnés dans le temps. C'est-à-dire que j'ai un clic, puis un autre dans un instant donné. Donc, en fait, j'ai vraiment un clic dans une impulsion, puis j'ai une impulsion avec deux instants donnés. Je vais avoir un photon là et un photon là. Ça me donne un double clic de probabilité P1 carré. Par contre, si j'ai ici une impulsion avec deux photons, que je vais noter 1 et 2, eh bien, je peux avoir le clic avec un photon là et l'autre photon là, ou l'inverse ici. Et donc, en fait, ici, en fait, l'intensité va être proportionnelle, l'air de mon pic va être proportionnel à 2P2. Et donc, ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que le ratio d'intensité à t égale 0 par rapport aux autres pics, dans le cas assez général, alors c'est pas toujours vrai, mais dans la plupart du temps, en fait, c'est exactement la fonction de corrélation d'ordre 2 que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est 2P2 sur P1 carré. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe que quand je mesure ici, alors il se trouve que sur cette courbe-là, vous voyez, il n'y a pratiquement aucun signal à délai nul. Hein. Vraiment, il y a trois fois rien, là. Par contre, sur celle que je vous ai montrée avant, il y avait un petit quelque chose, là. Et donc, avec cette mesure-là, je peux mesurer la probabilité d'avoir deux photons. Ce pic-là est proportionnel à la probabilité d'avoir deux photons. Donc, je peux caractériser mon état quantique, savoir quelle est la probabilité d'avoir un photon, quelle est la probabilité d'avoir deux photons. Maintenant, regardons à droite le laser. Tous les pics ont la même intensité. Étonnant. Eh bien, en fait, non, pas étonnant. Le laser, je n'ai pas gardé la formule, je vais la réécrire ici. C'est un état cohérent, ici, qui s'écrit c'est cet état-là. L'analyse que j'ai faite ici avec mes histoires de 1 ou 2 photons, ça reste vrai. Donc, en fait, cette formule-là, elle est tout le temps vraie, à très faible nombre de photons. Et donc, en fait, quand j'applique ça à un état cohérent, bah, la probabilité d'avoir un photon dans mon état cohérent, ici, pour n égale 1, eh bien, si je prends alpha très petit devant 1, un nombre moyen de photons, c'est n bar, ça, très très petit devant 1, eh bien, en fait, la probabilité d'avoir un photon dans mon état cohérent, c'est alpha carré. Et la probabilité d'avoir deux photons dans mon état cohérent, eh bien, c'est, pour n égale 2, c'est alpha. Et là, j'ai oublié 1. Je fais toujours des erreurs de calcul quand je suis au tableau. Donc, je vais aller vérifier pour ne pas dire de bêtises. Il est là, voilà. Non, c'est bon. Et donc, il n'y avait pas de... Hop, voilà. Et donc, la probabilité d'avoir deux photons, bah, ça va être module de alpha 4 sur factoriel 2, donc sur 2. Et donc, cette fois-ci, quand je prends le ratio de ces deux valeurs-là, j'ai 2 de 0 qui est égal à 2P2 sur P1 carré, eh bien, je trouve que c'est exactement 1. Et donc, ça veut dire que l'air des pics sont tous égaux. Et donc, en fait, ce que je vous montre là, c'est typiquement une des expériences qu'on fait dans les laboratoires pour regarder ce que c'est, quelle est la statistique des photons émis dans notre source. Quand on n'a pas de pic, on se dit qu'on a vraiment une très bonne source de photons uniques. Quand tous les pics sont égaux, on se dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, on est en train de regarder le laser ». Et quand on est entre les deux, eh bien, on récupère l'information sur le nombre de photons qu'on a dans notre impulsion en faisant ce type de mesure. Voilà, alors maintenant qu'on en est là, on va pouvoir encoder l'information sur des photons et on va passer de 1 à 2 qubits en introduisant le formalisme matrice densité. Alors, on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Je vais pouvoir encoder l'information si j'ai des états à un photon, par exemple sur la polarisation des photons, circulaire droit ou circulaire gauche. Ici, je vais pouvoir créer des qubits superposition alpha droite et bêta gauche, plus bêta gauche. Je vais pouvoir le faire en fréquence, de fréquence oméga 1 ou oméga 2. On peut le faire dans le temps aussi. On peut envoyer un photon qui est réparti entre deux instants. À l'instant t delta 1, un segment de temps delta 0 ou un segment de temps delta t1. Et on peut également les encoder en chemin. On peut envoyer un photon, un petit peu comme je l'ai fait ici avec mon cube séparateur. Je peux créer des superpositions d'un photon dans deux chemins en utilisant par exemple des interféromètres de Mach Zehnder. Ce qui est intéressant avec les photons, c'est qu'on peut aussi mettre plusieurs qubits sur un photon en utilisant plusieurs degrés de liberté. Donc là, je vous ai pris un exemple d'un article d'il y a, de 2018 où les chercheurs avaient en fait encodé l'information sur trois quantités en même temps, la polarisation, le chemin, chemin du haut, chemin du bas, et la polarisation, le moment orbital angulaire, donc c'est une quantité un peu plus subtile qui décrit les champs qui vont s'enrouler dans un sens ou dans l'autre. Et donc on peut aussi créer plusieurs qubits sur un photon. Dans cet article-là, ils avaient fait un protocole d'information quantique avec 18 qubits, mais en utilisant simplement 6 photons. Caractérisons maintenant ces qubits encodés dans la lumière. Nous l'avons fait la semaine dernière avec le vecteur de Bloch. Nous avions décrit une superposition, par exemple, en polarisation, je reste en polarisation maintenant, comme superposition alpha right plus beta left, que je peux aussi écrire avec le vecteur de Bloch qu'on représente ici sur la sphère de Bloch. Et nous avions regardé ensemble à quoi correspondent les différents états. Donc l'état ici qui pointe vers le bas, c'est l'état L. Les états ici qui pointent vers le, selon le x, c'est ce qu'on appelle des états linéaires right plus left sur racine de 2. Et ici, le long de y, c'est des états linéaires d'un autre type, right plus i left sur racine de 2. Alors, on avait vu ensemble, et je ne le refais pas, mais on avait vu ensemble comment mesurer ce vecteur de Bloch dans le cas d'un spin. On avait fait montrer qu'il suffisait de faire une mesure, par exemple, selon plus z et moins z pour le spin, et ici, ce seront selon la polarisation circulaire droite et gauche, pour récupérer la composante du vecteur de Bloch selon z, et de réaliser dans les autres directions pour avoir toutes les composantes du vecteur de Bloch. Ça, on a vu ça la semaine dernière. Donc, on sait caractériser un qubit de spin, de polarisation ou de chemin, avec ce type de tomographie. Je vais changer de formalisme, je vais introduire un autre formalisme, parce que quand on va au-delà de 1 qubit, les choses se corsent un petit peu, et on va avoir envie plutôt de parler de matrice densité. Alors la matrice densité, je la décris ici pour un état pur, on verra la semaine prochaine une situation plus subtile et plus complète, mais je pars toujours de ce qubit qui est alpha 0 plus bêta 1. La matrice densité, en fait, ça va être simplement psi-psi. Et donc, en fait, ça va être cette matrice qui est alpha carré en module et bêta carré en module sur la diagonale et alpha bêta étoile, alpha étoile bêta sur les termes non diagonaux. Si on fait un petit peu de maths et qu'on prend l'expression de alpha et bêta ici, on va aussi pouvoir écrire ça avec les coefficients qui nous permettent de décrire le vecteur de Bloch. Et en faisant un tout petit peu de trigonométrie, eh bien, on va en fait pouvoir faire apparaître ici des termes qui sont directement proportionnels aux coefficients du vecteur de Bloch, qui sont en cos θ sinus θ, cos θ sinus, cos θ cos φ, cos θ sinus φ, et bon, je l'ai dit dans le mauvais sens, mais voilà, je vais les remontrer ici, excusez-moi, j'aurais dû le mettre là, sin θ cos φ, sin θ sinus φ et cos θ. Si je fais un tout petit peu d'algèbre ici, eh bien, je peux montrer en fait que ça, ma matrice densité, s'écrit de manière très simple comme la moitié de l'identité fois mon vecteur de Bloch, scalaire, sigma, où sigma, en fait, c'est ce vecteur qui représente les matrices de Pauli. On le voit très bien ici, hein, par exemple, sur la diagonale. Eh bien, sigma z, c'est cos θ. Eh bien, on va avoir un cos ici sur la diagonale. Donc, on a bien un 1 plus rz ici sur la diagonale, sur 2, etc., etc. Tout ça pour vous dire que la matrice densité et le vecteur de Bloch sont deux façons parfaitement équivalentes de représenter l'état quantique. Mais vous allez le voir, en passant en matrice densité, on va pouvoir aller un peu plus loin. Alors juste pour s'accoutumer à regarder à quoi ressemblent ces matrices densité, les vecteurs de Bloch, on les avait décrits à l'instant pour les états en haut et en bas de la sphère de Bloch, et ici en x et en y. Alors si je prends l'état R ici, alors R c'est simplement 1, 0 hein, dans la base R right-left, et donc en fait ça me donne la matrice densité où j'ai juste 1, 0, 1, 1 ici et 0 partout ailleurs. Pareil en moins z, si je calcule la matrice densité pour l'état moins z, bah simplement je vais avoir 0 partout sauf ici en bas, avec une population qui me dit que j'ai une population en fait de 1 dans l'état L. Et puis ce qui est intéressant, ça va être les autres matrices densité qui apparaissent ici en H ou en D, où on voit apparaître cette fois-ci des matrices densité qui ont cette fois-ci 4 termes. notamment des termes hors diagonaux qui ont une amplitude proche de, en module de 1. Et donc, en fait, on va pouvoir commencer à parler ensemble de ces différents termes de la matrice densité, qu'on appelle en fait les termes diagonaux de la matrice densité correspondent simplement à la population des états. Hein, si je reprends mon état psi égale alpha 0 plus bêta 1, eh bien, ma matrice densité sur les termes diagonaux, j'ai un module de alpha carré, module de bêta carré. Ça, ce n'est rien d'autre que la probabilité de mesurer l'état dans le qubit dans l'état 0, alpha carré. Et ça, c'est la probabilité de mesurer le qubit dans l'état 1. Et c'est ce qu'on appelle les populations. Donc, c'est la probabilité de trouver le système dans l'état qui nous considère. Et les termes non diagonaux, vous allez voir, le mot, on parle de cohérence. Ces cohérences apparaissent, comme on l'a montré ici, quand l'état quantique que je considère, dans la base que je considère, sont des superpositions quantiques. Et là, vous commencez à voir où je vais en venir. Ces cohérences, qui apparaissent quand on a une superposition quantique, caractérisent le fait qu'on a une superposition quantique. Et quand on parle de technologie quantique seconde génération, on a bien dit que c'est la cohérence qui va nous intéresser pour développer les technologies quantiques. Et donc, ce sont ces termes hors diagonaux de la matrice densité qui vont nous intéresser. Ce qu'on montre de manière générale, c'est que ces termes hors diagonaux sont en moyenne, sont toujours inférieurs à la racine carrée des deux termes diagonaux ici, que c'est seulement quand on a vraiment un état quantique qu'on dit pur, une superposition quantique, que ces termes non diagonaux sont en norme égale au produit des populations, la racine carrée du produit des populations. Et on va avoir tout un tas de systèmes. Donc, tout ce que j'ai traité depuis le début du cours, c'est des états purs. Mais en fait, il y avait une exception. Quand je vous ai parlé de l'expérience de Stern et Gerlach la semaine dernière, eh bien, les spins des atomes d'argent n'étaient pas préparés dans une superposition quantique. On avait de temps en temps des atomes avec un spin-up, de temps en temps des atomes avec un spin-down. Et ça se décrit en matrice densité comme cela, avec des systèmes qui étaient de temps en temps dans l'état plus Z et de temps en temps dans l'état moins Z. Et vous voyez ici, aucune cohérence dans les termes non diagonaux. Donc là, je prépare le terrain pour la semaine prochaine. Mais surtout, maintenant que j'ai introduit la matrice densité, on va pouvoir parler de deux photons, des états intriqués à deux photons, qui sont par exemple les états de Bell, que j'avais déjà mentionné dans la leçon inaugurale. Donc, par exemple, ici, un état, l'état phi plus, qui est décrit de un état à deux photons, A et B, qui sont dans une superposition quantique de HAHB plus VAVB. Cet état de Bell-là, si je l'écris, sa matrice densité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement psi plus, phi plus, phi plus. D'accord? Donc, c'est un vecteur qui a quatre composants, donc ça va me faire, c'est le produit d'un vecteur horizontal et vertical à quatre composantes, ça va me donner une matrice 4-4, où on voit apparaître ici, en haut à gauche et en bas à droite, qui reflète le fait qu'on a des populations, la probabilité de le trouver, le système avec les deux photons dans la polarisation H de probabilité 1,5, les deux photons dans la polarisation V de probabilité 1,5, et puis ici, ces termes non diagonaux, qui sont les cohérences et qui montrent, qui viennent de cette intrication ici de l'état, qui fait qu'on a des termes croisés, HAVB et ici c'est HA, tac tac tac, VAVB et VA, ici, pardon, là on est à HAHB, VABB, et ici le symétrique. Alors ça c'est typiquement ce qu'on caractérise dans les laboratoires pour montrer qu'on a des états intriqués à deux photons. Si je change d'état intriqué, vous voyez que j'ai écrit quatre états possibles. Dans les quatre états possibles, je vais avoir le même état avec un signe moins. Et puis après, je peux avoir HAV, B et VAHB. Donc on a les états de Bell de catégorie phi, où les deux photons sont dans la même polarisation, ou de catégorie psi, où les deux photons sont toujours dans des polarisations orthogonales, mais intriquées. Si je prends le dernier en bas, la matrice densité aura une tête tout à fait différente. On peut calculer dans cette base, cette fois-ci. On aura les termes de cohérence qui sont ici au centre et les termes de population qui sont également ici au centre. Donc pour mesurer ce type d'état, on va devoir pousser un petit peu plus loin notre méthode pour caractériser les états quantiques. Ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Donc on avait vu ensemble que pour mesurer l'état à 1 qubit, il nous fallait en fait 6 mesures dans la vraie vie, 5 si on a vraiment plus confiance entre nos systèmes expérimentaux. Cet article de Andrew White, qui est un collaborateur australien, je crois que c'est en 2000, j'ai oublié de marquer l'année, donne une recette pour mesurer les états quantiques à plusieurs qubits. Et ici, par exemple, le schéma expérimental qui permettrait de mesurer des états de deux photons intriqués. Cette fois-ci, il va falloir détecter l'état d'un photon et de l'autre et regarder les corrélations entre la mesure du photon 1 dans l'état A, pardon, le photon A dans l'état V, le photon B dans l'état H, etc. etc. Et donc, en fait, c'est un problème de maths. Hein. Combien de mesures j'ai besoin pour trouver tous les coefficients, les 16 coefficients de cette matrice? Ben, en fait, il faut 16 mesures. Et ils ont trouvé une recette qui vous dit comment choisir la polarisation de vos états pour être sûr de mesurer l'état quantique de manière complète. Je suis à 2 qubits, il me faut 16 mesures. Vous voyez qu'on va s'arrêter très vite. Quand on commence à avoir des états intriqués à 3, 4, 5 particules, c'est un domaine de la recherche actuelle de trouver des méthodes pour certifier la présence d'intrication sans avoir à connaître, mesurer complètement l'état quantique, parce que le nombre de mesures, il est en 2 puissance 2 puissance n. Donc ça monte très très vite. Alors, petite illustration expérimentale. Comment on peut générer ces états quantiques de photons intriqués? Eh bien, on peut prendre un cristal non linéaire, envoyer un laser dessus. Ce cristal non linéaire, en fait, va, d'une certaine façon, fractionner l'énergie de votre photon en 2 photons d'énergie, dont la somme des fréquences est égale à la fréquence du photon pompe. Et puis, vous avez une règle de conservation aussi sur les vecteurs d'onde ici. D'un point de vue quantique, on peut décrire ce système, par un hamiltonien d'interaction entre les photons qui sont incidents et ceux qui vont être émis, qu'on peut décrire ici comme je détruis un photon pompe, et les opérateurs de création ici, je crée un photon signal et un photon, alors on appelle ça idler, on a 2 photons qui sont émis l'un à côté de l'autre, c'est l'un et l'autre en même temps qu'on appelle des photons jumeaux en français. Et donc quand on regarde, eh bien, on peut créer donc des paires de photons en prenant un cristal comme ça, en passant la limite, donc on augmente la puissance juste pour être au seuil de conversion, ça veut dire que la plupart du temps, on ne crée rien, on ne crée pas de photons. Mais de temps en temps, on crée une paire de photons, alors je vais rester en anglais, hein, signal et idler, parce que je ne trouve pas le correspondant français actuellement, avec une probabilité eta, très petite devant 1, et de temps en temps, on va aussi créer 2 paires, par exemple. Alors pour l'instant, je vais faire comme si on n'avait pas la probabilité d'avoir 2 paires aussi. Regardons simplement le fait que je vais créer de temps en temps une paire. Comment je vais montrer que je vais créer ces états-là, des paires de photons? Eh bien, c'est ce qui a été fait, par exemple, dans l'équipe de Sarducci, qui est étudiée dans l'équipe de Sarducci, toujours au laboratoire matériaux et phénomènes quantiques, avec des systèmes semi-conducteurs, où en envoyant un laser sur un cristal semi-conducteur, qui est le même type de cristaux qu'on utilise pour faire des lasers, des pointeurs laser rouges, il génère des paires de photons qui sont émis dans 2 directions différentes. Pour montrer qu'ils ont vraiment émis des paires de photons, ils vont envoyer ces 2 photons, toujours sur le même appareil, avec 2 détecteurs. Ils vont regarder les corrélations, le fait d'avoir un clic sur l'un et un clic sur l'autre. Et cette fois, eh bien, la physique va être très différente, puisque les photons sont émis en même temps. La probabilité d'avoir un double clic, ben, ça va être égal à module de état carré, puisque c'est la probabilité que je crée une paire, simplement, à délai nul. Par contre, pour des temps éloignés, la probabilité de détecter un clic puis l'autre, bah, ça va simplement être la probabilité d'avoir un clic et puis très longtemps après un autre. Donc en fait, ça va être simplement le fait d'avoir un signal ou pas. Donc ça, c'est à délai nul. Et à délai long, eh bien, en fait, ça va être la probabilité d'avoir un clic fois la probabilité d'avoir un autre clic. Comme les photons sont émis par paire et pas individuellement, ça me fait du état 4. Et cette fois-ci, quand je fais le ratio des pics à délai nul, des corrélations, eh bien, quand je prends le ratio cette fois des courbes, je vais voir en fait que ça va être proportionnel à 1 sur module de état carré. Donc en fait, si état est très très petit, je vais avoir un pic de corrélation là, comme vous le voyez ici, qui peut monter à des valeurs très très grandes. Ça, c'est la preuve que j'ai émis des photons par paire, de manière corrélée. Ils ont été émis en même temps. Alors je vous raconte ça pour vous présenter une première application de ce type. Alors, pardon, je vais un peu vite là, mais on peut aussi... ils l'ont montré dans cet article de 2013, on peut aussi travailler avec le système pour créer des paires de photons intriqués. Vous reconnaissez ici une matrice densité mesurée d'un état psi- que je vous ai montré juste avant. Alors, je vais vous montrer d'abord une illustration de ce type de photons corrélés. Je regarde l'heure qui passe, j'ai peur d'être un petit peu juste. Qui utilise ces paires de photons. L'idée, c'est d'envoyer donc, ce cristal non linéaire qui crée des paires de photons sur un système. Et on va mettre ici une image qu'on veut imager. Et on va avoir une caméra CCD à la sortie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les photons sont émis ensemble, ils sont émis de manière corrélée. L'un qui va vers la gauche, l'autre vers la droite. Donc, quand on regarde sur la caméra, eh bien, en fait, sur la partie gauche et sur la partie droite de la caméra, en fait, on va avoir des corrélations entre le photon qui a été émis à un moment donné et son jumeau qui a été émis au même instant, mais dans l'autre direction. Et donc, ce qu'ils vont faire dans ces analyses de données ici, c'est qu'ils vont faire les analyses des doubles clics corrélés entre deux images. Et avec ce double clic, vous voyez, d'un seul coup, ils vont faire apparaître un pic qui est exactement l'analogue du pic que je vous ai montré là. C'est-à-dire qu'on a un signal qui est très intense parce qu'on a une probabilité très forte d'avoir émis les photons en même temps. Et donc, en faisant ça, en fait, ils ont une façon de reconstruire l'image en regardant les corrélations. L'image est seulement traversée par un des deux photons, mais en faisant la mesure sur les deux photons, ils vont pouvoir reconstruire l'image de manière très efficace. Et là où ça devient très puissant, c'est qu'ils ont rajouté ici, juste pour montrer la puissance de leur technique, une source de lumière parasite qu'ils contrôlent. Donc ils rajoutent souvent, quand on fait de la microscopie, on a malheureusement de la lumière parasite qui va venir sur une image. Et ils montrent, en mettant cette source de lumière parasite, que si ils mettent la mesure classique de l'image, ils vont avoir, ils ont pris une image de photon, puis ils ont mis le bruit comme s'il était dans une cage. Donc ils ont rajouté un bruit de cage. Et s'ils font l'image de l'intensité seulement, bah, ils voient ce photon, cet oiseau qui est pris dans la cage. Mais s'ils font les mesures de corrélation quantique, en fait, simplement le signal des photons corrélés ici, entre les deux bras, les corrélations permettent simplement de détecter les signaux venant de la corrélation des deux photons entre les deux bras et d'éliminer complètement le signal qui vient de la lumière parasite. Et donc, ils sont capables, je trouve que l'image est très jolie, de faire sortir l'oiseau de sa cage en extrayant la vraie image d'un bruit qu'ils ont introduit. Deuxième image, exemple que je voulais vous donner, c'est de l'imagerie avec des photons intriqués qui s'inspire des techniques d'imagerie par holographie. L'holographie, c'est l'idée d'envoyer un faisceau de lumière, de le séparer en deux, une lumière cohérente et de faire passer un des faisceaux à travers qui va rencontrer un objet qui va distordre, modifier le champ ici et de le faire interférer avec le faisceau de référence. Et on va avoir une plaque, autrefois on avait une plaque photographique qui enregistrait donc cette interférence en faisant la somme du champ de référence et du champ émis par le transféré par l'objet. Et on voit ici apparaître que en faisant une analyse en fait des termes de cet hologramme ici porte l'information du champ objet à la fois en amplitude et en phase puisqu'on a des termes ici d'interférence qui font apparaître la phase relative des deux champs. Et bien, dans la continuité des travaux que je vous ai présentés, une autre équipe a fait ce type d'expérience avec des photons intriqués où ils font de l'holographie, cette fois-ci en récupérant l'information de la phase dans l'état intriqué ici, la phase qui est entre les deux composantes de l'état intriqué, donc VV plus HH. Ça, c'est un état intriqué. Et puis ici, un terme arbitraire de phase qui nous fait passer des états phi plus à phi moins continuellement en fonction de la phase ici. Ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient ces deux photons qui sont, comme tout à l'heure, corrélés, c'est-à-dire qu'ils sont émis en même temps dans des directions symétriques. D'un côté, Alice va encoder une information sur un masque de phase. De l'autre, Bob a simplement le photon intriqué. Si on regarde l'intensité des images ici, eh bien elles sont uniformes, il n'y a pas d'information. C'est seulement en faisant des mesures de corrélation entre ces deux photons intriqués, cette fois résolus en phase, qu'ils récupèrent toute l'information, c'est ce qui est montré ici. Bob, de son côté, n'a aucune information. C'est seulement quand il va faire des mesures de corrélation entre ces deux photons intriqués, pour différents angles, comme expliqué ici, qu'ils sont capables de reconstruire complètement l'image de phase qui avait été encodée par Alice. Voilà, pour vous donner des exemples, des premiers exemples, et on vous en montrera d'autres lors du colloque, d'utilisation de la lumière, notamment de photons intriqués, pour mettre en œuvre des nouvelles techniques d'imagerie. Ce type d'imagerie ont l'avantage donc d'être très sensible, de s'affranchir de la lumière parasite de manière très efficace. En général, ils montrent des rapports signaux sur bruit à l'état de l'art et souvent aussi des résolutions spatiales qui sont un petit peu améliorées du fait qu'ils utilisent deux photons au lieu d'un, par exemple. Ou un champ classique. Il nous reste 20 minutes et dans les 20 dernières minutes, je vais essayer de vous expliquer comment encoder l'information dans les quadratures du champ électromagnétique et vous donner les billes pour pouvoir ensuite savourer l'exposé de notre invitée aujourd'hui, Valentina Parigi, qui manipule la lumière dans cette perspective de regarder la lumière, non pas comme nous on le fait dans mon laboratoire, on regarde tout le temps si on a un, deux photons, etc., sous, en regardant les champs. Alors, tout ce que je vous ai montré dans les matrices densité à 1 ou 2 photons, on s'intéressait aux états N à 1 ou 2 photons, etc. Là, on revient à la description des opérateurs champs dans le formalisme que je vous ai introduit de seconde quantification. Et je vous réécris la formule que j'avais déjà présentée qui donne le champ électrique dans ce formalisme qui dépend en fait donc d'une somme sur L qui sont tous les modes que je considère. Donc, et les opérateurs A et A croix, les opérateurs d'annihilation, de création d'un photon, de vecteur d'onde K et de pulsation oméga. Ça, c'est le formalisme de Schrödinger, c'est-à-dire que j'ai mis dans mon opérateur ne dépend pas du temps, et c'est mes états propres, psi, qui vont dépendre du temps. Alors, pour passer dans la description des champs, je vais passer en formalisme de Heisenberg, où cette fois-ci, mes opérateurs vont dépendre du temps et mes fonctions d'onde vont être constantes. On fait ça parce que vous voyez ici, là, on a vraiment une image, on retombe dans une image physique du monde classique de la description du champ électromagnétique. Alors, on va faire ça aussi parce que je vais d'abord me mettre avec toujours un cas monomode, L égale fixé, et je vais me mettre à une position fixée R. Et quand je fais ça, le EIK scalaire R, etc., je peux me mettre à l'origine. Je vais finalement avoir simplement mon état qui va être décrit de manière simple comme A exponentielle moins I oméga t moins A croix exponentielle I oméga t. Pourquoi je fais ça? C'est pour faire le lien entre le champ qui m'intéresse, le champ électrique, et les opérateurs de départ de notre oscillateur harmonique qui sont X et P. Donc si j'explicite ici l'exponentielle moins I oméga t, je vais avoir un cosinus I oméga t moins I sinus oméga t. Donc je vais pouvoir réécrire ça sous la forme A plus A croix en sinus plus I A croix moins A cosinus. Et reprenons les définitions que nous avions prises pour A et A croix à partir de P et X. En fait, je tombe sur le fait que mon opérateur champ s'écrit très simplement comme X sinus oméga t plus P cos oméga t. Qu'est-ce que ça décrit? Ça veut dire qu'en fait, quand je mesure l'observable X, je suis en train de mesurer la composante du champ qui est en opposition de phase par rapport à celle qui est selon P. Alors, je crois que j'ai peut-être encore une erreur de signe. Tu me corrigeras. Ça n'a pas d'importance. Le message, c'est que les deux composantes ici, X et P, nous permettent de mesurer l'amplitude du champ électrique qui sont en phase et en opposition de phase, donc de caractériser complètement notre champ électromagnétique. Alors, maintenant, on veut regarder ce champ électromagnétique. Alors, comment est-ce qu'on va tracer, en fait, dans le monde quantique, ces champs électromagnétiques? Là, les choses se corsent un petit peu. J'introduis le formalisme de la fonction de Wigner, qui est un des formalismes, des fonctions de quasi-probabilité qu'on introduit pour décrire ces états quantiques. Alors, la fonction de Wigner, qui donc va faire une cartographie des quadratures du champ X et P, eh bien, elle s'écrit, se définit comme ceci, hein, c'est en fait une espèce de transformée de Fourier, selon X, du la matrice densité pris en deux endroits différents, X moins Y sur 2 et X plus Y sur 2. Le fait de prendre deux endroits différents nous permet d'avoir de l'information sur les corrélations qu'il existe entre deux points du champ électromagnétique. En le remettant sous la forme de fonction d'onde d'oscillateur harmonique, ça s'écrit comme ça, on voit plus la partie transformée de Fourier. Et autant cette fonction-là, on va la regarder ensemble, mais elle n'est pas tout à fait intuitive à comprendre, autant on peut prendre ce qu'on appelle les distributions marginales. Si j'intègre selon P, W de X et de P, je trouve un module au carré de psi de X au carré qui me dit en fait la probabilité de mesurer la quadrature du champ selon X ayant la valeur petit x. Et de la même façon, si je fais l'intégrale selon X ici, je vais avoir une probabilité au carré psi tilde de P qui me donne la probabilité de mesurer la quadrature P ayant la valeur P. Et quand je prends l'intégrale double, j'ai mon état, ma fonction qui est normalisée. Alors, Tout ça paraît très compliqué. On va juste regarder des belles images pour comprendre un petit peu à quoi ressemble le champ électromagnétique dans ce formalisme. Prenons le vide. Le vide a le bon goût. Quand on a une matrice densité, à décrire la matrice densité du vide est très simple. Si je me mets dans la base des états nombres, c'est simplement 1 ici, dans la case 0, 0 et rien d'autre. Facile. Si maintenant je vais regarder la fonction de Wigner du champ du vide, du champ électromagnétique, eh bien, je vais vouloir tracer ici cette fonction d'onde que d'introduire pour l'état qui correspond au vide. Or, en faisant l'analogie au début du cours avec l'oscillateur harmonique quantique, on a montré qu'on connaissait les états propres du champ d'un oscillateur harmonique avec aucune pour n égale 0, quand on n'a pas de quantum d'énergie. On a montré que c'était simplement une fonction gaussienne. Donc psi ici est une fonction gaussienne. Donc si j'introduis cette fonction que je connais pour le vide dans ma définition, ça ressemble à ça. Et on ne va pas s'amuser à regarder le détail des mathématiques ici, mais on peut montrer que du coup, ma fonction de Wigner, ma représentation du vide dans cet espace des phases, en fait, est simplement donnée par une gaussienne dans les deux directions, dans les deux quadratures du champ, x et p. Et vous voyez ici, on l'a tracée, elle a une forme gaussienne, ici dans l'espace des phases. Il y a quelque chose de très spécifique dans ces états quantiques du vide, c'est qu'on peut, montrer qu'en fait, si on prend la valeur moyenne de x et la valeur moyenne de p dans le vide, eh bien on atteint la limite 1/2. Et on a la même chose, vous verrez, dans un autre état ensuite. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'on peut montrer ici, c'est que l'extension spatiale dans les deux directions combinées, en fait, atteint la limite qui est donnée par l'incertitude d'Heisenberg. Prenons maintenant un laser. Alors, un laser, l'état d'un laser, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Là, j'ai pris une impulsion d'un laser qui a, je sais pas, 5, 6, 7 photons et qui est décrit par cet état cohérent qu'on a vu ensemble. Alors là, vous voyez que quand je commence à représenter un laser en matrice densité, ça se corse, hein, parce que comme j'ai beaucoup de photons, j'ai beaucoup, beaucoup de termes dans ma matrice densité. Et là, on voit que c'est quand même beaucoup plus avantageux de décrire mon système quantique dans le cadre des variables continues plutôt que dans le cadre de la matrice densité. Alors, pour calculer la fonction de Wigner d'un laser, d'un état cohérent, c'est un peu plus compliqué que le vide, mais en fait, il y a quelque chose de très pratique, c'est qu'on peut montrer que cet état cohérent, en fait, on peut montrer mathématiquement que c'est un état qui est simplement déplacé du vide. D ici, c'est un opérateur qui va déplacer l'état dans le plan des phases, qui est défini ici, là, sans rentrer dans les mathématiques, en prenant cette relation de la définition de cet opérateur qui déplace et en l'appliquant au vide. On voit que le premier terme ici, alors ici on a utilisé, une relation mathématique, un théorème mathématique qui vous dit que l'exponentielle de la somme de deux opérateurs, alors comme les opérateurs ne commutent pas, il ne faut surtout pas écrire que c'est le produit, hein, c'est l'exponentielle moins 1/2, le commutateur, alors j'espère que je ne me trompe pas de signe, de A et de B, exponentielle A, exponentielle B. C'est simplement ça qui me permet de passer de la définition ici à l'autre à droite. Mais une fois que j'ai fait ça, l'opérateur exponentiel proportionnel à A appliqué au vide, il n'y a que le terme qui est égal à 1 appliqué au vide qui reste. Donc ça, c'est l'état vide. Et ensuite, si j'applique cet opérateur-là au vide, eh bien, simplement en écrivant l'exponentielle sous forme d'une série, je retombe directement sur l'état cohérent. Alors tout ça juste pour vous montrer que quand en fait on va regarder, tracer la fonction de Wigner d'un champ cohérent, eh bien en fait on va se retrouver avec quelque chose qui est aussi une gaussienne, la même gaussienne que celle qu'on avait au centre, simplement décalée dans la direction défini par mon vecteur, mon coefficient alpha ici, alpha égale x0 plus ip0. Simplement, c'est un état déplacé dans la représentation des quadratures du champ électromagnétique. De la même façon ici, on a aussi cette relation, on peut montrer que les états cohérents ont aussi cette relation sur les incertitudes en x et en p, qui finalement se reflète dans la taille, dans la tâche, dans la forme de la fonction qu'on a dans le plan x et p des quadratures du champ électromagnétique. Et donc, cet état cohérent, c'est l'état qui est qui a la plus petite extension dans les deux directions, mais qui est décalée de l'origine. Donc c'est des états qu'on appelle des états quasi classiques. Bon, et puis pour aller au bout, par cohérence de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, je vais regarder la fonction de Wigner d'un état à un photon, qui sont les états que nous, on manipule pour encoder l'information. La matrice densité dans la base des états nombres d'un état à un photon, bah, c'est toujours un pic, ici, dans la case un photon, un photon. Cette fois-ci, pour calculer la fonction de Wigner, bien, en fait, je me rappelle qu'un état à un photon, c'est un état propre de l'oscillateur harmonique. Avec les polynômes de Hermite, simplement avec l'indice n égale 1. Et donc, en fait, je l'avais dit au début des cours, j'aurais dû le remettre ici. La fonction qu'on a là, c'est x fois une exponentielle. Et donc, en fait, on peut, en introduisant cette fonction ici, eh bien, on peut calculer la fonction de Wigner d'un état à un photon. Et ça va être le produit d'une gaussienne multiplié par une parabole. Et donc, en fait, vous avez ici, en fait, une fonction de Wigner qui a quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'elle monte, et puis ensuite on a un puits de potentiel qui vient du fait que vous avez ici le produit en fait, entre la gaussienne et quelque chose et cette parabole-là. Et ce qui nous intéresse beaucoup en information quantique, et peut-être que Valentina nous en parlera, dans ces états-là, on a quelque chose qui est négatif. On a dans la fonction de Wigner ici des valeurs négatives qui vous montrent bien que ces états, cette fonction de distribution de la fonction de Wigner, n'est pas une probabilité au sens classique du terme, et prend des valeurs négatives, et c'est exactement dans la négativité de ces états que l'on estime que les avantages qu'on pourrait avoir en exploitant cette lumière dans les technologies quantiques seraient substantiels. Alors pour terminer, comment on caractérise ces états-là ? Eh bien, on va faire des expériences qui sont très différentes de celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Tout à l'heure, pour caractériser le nombre de photons, je prends un cube séparateur, j'envoie sur deux détecteurs, et je sais si j'ai un ou deux photons, ou zéro, etc. Si j'avais séparé dans plus de chemins, j'aurais mis plus de détecteurs et j'aurais été capable de mesurer la probabilité d'avoir 0, 1, 2 ou 3 photons, etc. Là, on est dans un paradigme complètement différent. On veut mesurer les composantes du champ électromagnétique dans deux directions. Alors, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle, en général, c'est une mesure homonyme balancée, c'est-à-dire que vous allez avoir votre signal que vous voulez caractériser, qui est ici, qui va être interféré sur une lame semi-transparente, avec un signal de référence, et on va également avoir deux détecteurs à la sortie, mais on ne va pas mesurer les doubles clics des détecteurs, on va faire en fait une soustraction des signaux donnés par ces deux détecteurs. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on n'a qu'en sortie sur le chemin 1, on va avoir une superposition entre l'état que je veux caractériser, l'opérateur A, et le A qui correspond à OL, ça veut dire oscillateur local, ici. Et dans l'autre chemin de mon cube séparateur, je vais avoir cette fois-ci non pas la différence, mais la somme des deux champs. Et donc quand je vais calculer le signal que j'ai sur mes détecteurs, donc sur le détecteur 2, je vais avoir le module de A, c'est proportionnel à N2, donc A croix 2 à 2. Ça va faire apparaître ces termes-là, donc on va avoir A croix plus A oscillateur local sur racine de 2 produit à 2. Je vais avoir sur le détecteur 2, je vais avoir la même chose, mais avec A1, A croix 1 à 1. Et ce à quoi je vais avoir accès en faisant la différence des deux intensités, ça va être en fait tout à fait équivalent à ce dont je parlais tout à l'heure pour l'homolographie, ça va être les termes croisés. Les termes croisés entre des opérateurs qui concernent l'oscillateur de référence et le champ que je veux caractériser ici. Et donc en fait, si je fais l'hypothèse que mon oscillateur local, c'est un laser que je maîtrise et qui a énormément de photons, je vais pouvoir passer à la limite classique pour cet oscillateur local. Je vais pouvoir remplacer un opérateur par simplement un nombre complexe et on va pouvoir montrer que la différence de signal entre mes deux oscillateurs est directement proportionnelle en fait à cos θ x et plus sinus θ p qui sont vraiment les quadratures du champ électromagnétique qu'on veut mesurer dans le plan complexe. Donc on va avoir accès à la fois à x et p. En faisant tourner θ, on va avoir accès à toutes les mesures. Alors pour terminer, je vais vous donner deux illustrations de l'utilisation de ces variables continues pour faire des technologies quantiques. La semaine dernière, nous avons parlé d'échanges de clés cryptographiques à partir de photons uniques et on encodait dans deux bases, HV et diagonale. Et bien là, on va pouvoir aussi faire des échanges de clés cryptographiques. Au lieu d'encoder l'information sur la polarisation, par exemple, d'un photon unique, on va, dans le plan dans l'espace des faces des quadratures, ici, on va définir... Alors, mon petit dessin n'est peut-être pas suffisamment beau, hein, mais on va définir... J'ai plus de place. On va définir dans l'espace XP des quadratures. On va définir, par exemple, un état cohérent qui sera ici. Ça, c'est un état cohérent, par exemple, ici, ou là, ou là, ou là. Et je vais définir des qubits à partir de la position de mon état cohérent dans l'espace des phases. Alice va encoder l'information comme cela, sur quatre états, en choisissant deux bases, soit 0,90 degrés, soit 180, 270. Et puis Bob va réaliser une mesure, soit selon la direction X, soit selon la direction P. Et en fait, en mesurant les quadratures, eh bien Bob va pouvoir comparer, vérifier quel qubit Alice a envoyé. Et simplement, Alice et Bob vont comparer le moment où ils ont utilisé la même base. Donc c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps passe, mais c'est similaire à ce qu'on a discuté la semaine dernière. Par contre, les preuves de sécurité sont un peu plus complexes que celles qu'on a à dériver quand on fait des variables, quand on encode l'information sur des photons, parce qu'ici, on a beaucoup plus de photons et donc des champs traités un petit peu différemment. Un autre état quantique que je vais vous présenter, simplement, là, c'est de l'artiste, hein, c'est des figures d'artiste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, c'est ce qu'on appelle des qubits de chat. Les qubits de chat, vous en avez peut-être entendu en parler dans la formation, notamment les prix Nobel de cette année. Les trois prix Nobel, les physiciens prix Nobel, donc Devoré, Martinier et John Clark, qui travaillent sur les qubits supraconducteurs, ont notamment, certains d'entre eux, introduit les qubits de chat, qui sont en fait des superpositions quantiques d'un état alpha et moins alpha. Donc je prends la superposition quantique de cet état alpha-là et celui qui est dans l'autre direction. Et quand on fait ça, eh bien en fait, je vous montre ici des figures théoriques, on a une fonction de Wigner qui a une tête très compliquée. On n'est pas simplement la superposition des deux ronds. On a au milieu une forme très intéressante. Et quand je fais une tranche ici sur le côté, quand je mesure les marginales, donc là, j'intègre dans la direction, vous voyez ici, et bien vous voyez ici qu'on a des pics, des oscillations. Et suivant qu'on a l'état plus alpha ou moins alpha, ces oscillations sont en fait en opposition de phase. Là, j'ai un pic, j'ai un trou, etc. Et donc ça, on va pouvoir utiliser ça, par exemple, pour encoder l'information. Ce qui a été montré dans ces systèmes, c'est que ces types de qubits sont très résilients à certains types d'erreurs, et notamment, je vais sauter ça, et notamment aux pertes. Parce que si j'écris les étapes... Non, je vais quand même expliquer ça. On aura 2 minutes de retard et c'est pas grave. Excusez-moi. Donc en fait, comment on produit ces états de chat? Eh bien, on va... prendre un système non linéaire, donc ça va être un peu comme l'optique non linéaire que je vous ai expliqué, mais cette fois-ci, au lieu de détruire un photon pour en créer deux, on va en détruire deux photons pour en créer deux, et puis on va pomper le système avec des états à deux photons, ce qui fait que l'hamiltonien total du système sont cet hamiltonien de non linéaire de type Kerr, plus le terme de pompe qui introduit des photons, des paires de photons dans le système. On peut montrer que cet hamiltonien-là, on peut le réécrire sous cette forme, en faisant apparaître les termes en x qui sont en a plus a croix sur racine de 2. Et donc en fait, l'énergie, le potentiel équivalent, c'est en fait un terme en x4 moins un terme en x2. Et donc vous avez ici un double puits. Et donc d'un point de vue classique, ce double puits vous donne, d'un point de vue complètement classique, hein, ça vous donnerait deux états stables ici en bas des deux puits. Et on peut montrer que dans le monde quantique, l'équivalent, les états propres de ce système-là, ce sont les états chats que je viens de vous présenter, qui sont alpha plus ou moins alpha. Et donc, c'est comme ça que les chercheurs vont pouvoir créer ce type d'état, en créant des non-linéarités dans les systèmes et en alimentant le système avec des états à deux photons. Et donc, ce qui est intéressant avec ces qubits de chat, c'est que si j'applique l'opérateur A, c'est celui qui enlève un photon à mon système, à mon état propre C plus, ici, eh bien c'est très simple. Si j'applique A à l'état de chat C plus, c'est-à-dire que j'applique A à alpha plus moins alpha sur racine de 2, comme alpha c'est un état propre de A et moins alpha c'est aussi un état propre de A, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne alpha moins alpha sur racine de 2. Et donc vous voyez qu'en perdant un photon, en fait, je fais juste un changement de signe ici. je n'ai pas détruit complètement mon système. Alors que quand j'encode la formation, si j'encode la formation sur un état à un photon, bah, je me retrouve avec le vide, et dans le vide, on ne peut pas vraiment coder de la formation. Donc ces états sont très intéressants parce que si on perd un photon, eh bien en fait on ne perd pas la formation, on a simplement ce qu'on appelle un bit flip, c'est-à-dire qu'on était passé, si j'ai appelé l'état C plus le qubit 0 et C moins l'état 1, ben j'ai simplement inversé. Et ça, on peut le corriger facilement. Alors pour une dernière illustration, je vous montre ici un article qui date de 2020 qui réalise ces états de qubits de chat dans des systèmes de qubits supraconducteurs. Pour vous montrer que ce qu'on a discuté aujourd'hui, j'ai commencé en disant qu'on va pouvoir décrire la lumière. Mais la lumière peut aussi être émise à des longueurs d'onde différentes, par exemple aux longueurs d'onde micro-ondes, c'est ce qui se passe avec les qubits supraconducteurs. Donc c'est de la lumière, si vous voulez, qui est sur un circuit supraconducteur. Et vous voyez, dans ce papier, eh bien, on a à nouveau une sphère de Bloch qui décrit l'état d'un qubit. Au lieu d'avoir, comme ce qu'on a fait depuis le début, spin-up, spin-down, ou la polarisation right-left, etc., ici, ils encodent l'information sur des qubits de chat. Et ce qu'ils font ici, c'est que vous avez ici une structure en cuivre qui devient supraconductrice, qui va pouvoir créer des états micro-ondes en mettant un qubit supraconducteur dedans. Et ce qu'on peut montrer ici, je vous montre juste des jolies oscillations de Rabi, comme on a vu la semaine dernière, sans vous expliquer la physique parce qu'elle est beaucoup plus compliquée que celle qu'on a vue la semaine dernière. Et vous montrer ici, d'un point de vue théorique, la fonction de Wigner de ces états de chat, suivant qu'on est au maximum ou au minimum des oscillations de Rabi ici. Vous voyez qu'on on va venir balayer, vous voyez, cette espèce de frange qu'on a au milieu de l'état de chat et qui vont nous permettre de passer d'une valeur à l'autre d'un état de qubit. Et pour terminer, je vais revenir sur cette belle image que je vous ai montrée au début. Je vous ai dit que la start-up Xanadu encodait l'information dans les quadratures du champ électromagnétique. Je vous ai montré ce joli petit dessin. Eh bien, cette figure-là, c'est une réalisation expérimentale que nous considérons au niveau international vraiment comme une belle première démonstration d'un état spécial qu'on appelle des états GKP, du nom des trois physiciens qui ont introduit ces états quantiques, qui sont en fait, quand on regarde les intégrales, les marginales du côté ici de la fonction de Wigner, qui montrent en fait des états à plusieurs pics. Et donc l'idée de ces états quantiques, c'est que vous avez dans l'espace des phases des peignes, je ne peux pas dire de fréquence, des peignes, dans l'espace des phases, et vous allez pouvoir encoder les qubits en prenant deux peignes décalées, par exemple, d'une demi-période. Et ces états-là sont très recherchés dans le calcul quantique photonique où on encode l'information dans les quadratures du champ électromagnétique parce que, alors, on voudrait des états plus grands que ceux-là, avec plus de pics, mais si on était capable de faire des états avec plus de pics et avec des pics mieux définis, eh bien, c'est des états de manière très intéressante pour corriger les erreurs dans les calculs qu'on ferait avec des ordinateurs quantiques de ce type-là. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.